RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 95-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir à toutes et à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, nous allons également présenter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie. L'orbi suivante, magazine culturel et l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, comme d'habitude, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutez maintenant le journal suivi de commentaires.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Discuter des problèmes catastrophes, BNPB a tenu une réunion de travail national à Bali. Libye fixe des objectifs de fonder un centre de données nationales sur l'océanographie. Todung veut renforcer la coopération des droits de l'homme avec la Norvège. Le nouvel ambassadeur veut continuer à aider à résoudre le conflit au Myanmar. Les hommes d'affaires touristiques de l'ASEAN et l'Inde sont prêts à gérer le paquet côtier de Banyuwangi. Cher ami, nous présente maintenant le journal complet. Au moins 3000 personnes de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, au BNPB, et l'Agence nationale de gestion des catastrophes régionales, au BPBD, en Indonésie, ont participé à la réunion de travail national à Nusa Dua, Bali. Le chef de BNPB, M. Willem Rampangile, a déclaré aux journalistes à Bali Nusa Dua Convention Center mercredi que la réunion de travail pour évaluer de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, et BPBD en 2017. Selon lui, cette évaluation sera la base de rédiger la stratégie de travail en 2018.
Oleh karena itu, di dalam rapat ini, kita harus satu, menetapkan prioritas.
Par conséquent, dans cette réunion, nous devons premièrement déterminer la priorité. Deuxièmement, nous ne pouvons plus gérer les catastrophes de façon traditionnelle. Nous avons besoin d'innovation, de percée, d'utilisation de la technologie, de développement des capacités. Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes a expliqué tout au long de 2017, il a réussi à réduire le risque de la gestion des catastrophes. On peut voir à partir du nombre de morts à cause des catastrophes naturelles en Indonésie. Selon lui, la condition est soutenue par la préparation de parties prenantes concernées. Donc, selon le gouvernement, la société joue également un rôle actif dans la réduction des risques de catastrophes naturelles en 2017. Cette activité est participée par des ministres du cabinet de travail du 21 au 23 février. Le Centre de recherche océanographique de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, commémore son 33e anniversaire. Avec une longue histoire, LIPI contribue au développement national, notamment dans le domaine des sciences et technologies marines. Le directeur du Centre océanographique de LIPI, Dr. Dirham Shah Mardi, à Jakarta, après l'ouverture de la semaine de la science océanographique 2018, a déclaré que sa partie fixait des objectifs de construire un centre de données national.
Kami berharap kami menjadi embrio dari yang namanya kita akan sebut dengan national.
Nous espérons que nous deviendrons l'embryo du nom que nous appellerons le Centre national des données océanographiques. Parce que jusqu'à présent, l'Indonésie n'a pas officiellement un centre de données marins. Nous allons commencer pour cela et notre objectif en 2019 ou 2020. Nous sortirons avec un bâtiment spécifique que nous construisons pour le Centre national des données. Selon Dirham Shah, en 2019, il cible également à avoir des données des récifs coralliens et des algues en Indonésie. Jusqu'à présent, il n'existe pas encore de données complètes sur l'état des récifs coralliens et des algues en Indonésie. Ces données sont très utiles en plus de la science, mais aussi pour la prise de décision. Ces données peuvent être utiles pour la prise de décision dans le domaine du tourisme, dans les efforts de transplantation des récifs coralliens. L'IPI possède également des données très importantes sur l'océanographie, physique pour la sécurité maritime. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie n'a pas de telles données. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Todung Mulya Lubis, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Norvège et en Islande, voulait renforcer la coopération dans le domaine des droits de l'homme avec la Norvège. Il a été dit mardi au Palais d'État Jakarta, après être inauguré par le président Joko Widodo en tant qu'ambassadeur de la République d'Indonésie en Norvège et Islande. Selon Todung Mulya Lubis, les relations entre les deux pays ont été constructives, mais de nombreuses mesures doivent être prises pour attirer des investissements de la Norvège vers l'Indonésie, y compris de nombreux accords pour établir les relations culturelles et éducatives avec ce pays. Il a dit que le citoyen indonésien en Norvège était environ 6 000 personnes et à Oslo, il y en a environ un millier. Il travaille dans le domaine de l'énergie, la pêche et dans le domaine de la marine. L'inspecteur général de la police, Isa Fadri, veut poursuivre ses efforts pour aider à résoudre le conflit dans l'état de Rakhine lorsqu'il sert comme ambassadeur de Myanmar. Isa Fadri, qui a précédemment servi le personnel expert des affaires sociopolitiques de commandant en chef de la police indonésienne, a été inauguré mardi par le président Joko Widodo comme ambassadeur de la République d'Indonésie au Myanmar. Il a été dit Isa Fadri au Palais d'État Jakarta mardi. Selon lui, comme un pays ami, l'Indonésie veut bien soutenir la solution du problème. Le 28 janvier 2018, le président a accordé une aide indonésienne au camp de réfugiés de Rohingyas à Cox's Bazar au Bangladesh. Plus de 650 000 Rohingyas ont fui de leur maison dans l'état de Rakhine pour évacuer au pays voisin, le Bangladesh, après que l'armée de Myanmar a lancé un contre-attaque comme réponse à une attaque des militants de Rohingyas sur les postes de garde le 25 août l'année dernière. Les Nations Unies ont égalisé cet acte avec le nettoyage ethnique. Plus de 300 hommes d'affaires du tourisme de différents pays d'ASEAN et l'Indie, ainsi que plusieurs villes en Indonésie, ont voyagé à plusieurs destinations touristiques à Banyuwangi, Java Est, pendant 3 jours du 20 au 22 février. L'événement avec le thème Ocean Travel Mart gère divers paquets touristiques qui visent à attirer plus de touristes nationaux et étrangers. Le président de la Bourse touristique de Java Est, M. Nasrun Afandi, a déclaré à Banyuwangi mercredi que Ocean Travel Mart a reçu une bonne réponse des entrepreneurs du tourisme, des vendeurs et des acheteurs qui sont sélectionnés leur crédibilité. Certains facteurs qui enflouent l'enthousiasme sont entre autres le secteur du tourisme à Banyuwangi qui développe en quelques années. Le régent de Banyuwangi, M. Abdullah Aswar Anas, adik laki merkerja a Banyuwangi ke setevenemong vize a trube le nouveau marché tel ke Lazian elangdi. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Vous écoutez la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le commentaire intitulé « La journée internationale de la langue maternelle ». L'UNESCO en 2008 a déclaré que lorsqu'une langue éteinte, le monde a perdu un héritage très précieux. Un grand nombre de légendes, la poésie et les connaissances accumulées au fil des générations vont disparaître. Rafiqul Islam est l'initiateur de la journée internationale de la langue maternelle. Il a envoyé son idée aux Nations Unies et à ce moment-là, le secrétaire général est Kofi Annan. Rafiqul a demandé à l'ONU à prendre des mesures pour préserver toutes les langues du monde de la possibilité d'extension. Il a proposé de déclarer la Journée internationale de la langue maternelle le 21 février et cette date fait référence aux événements du 21 février 1952 quand il y a eu les manifestations étudiantes au Pakistan qui ont fait un certain nombre d'étudiants ont été tués. Depuis lors, le 21 février est célébré comme la Journée internationale de la langue maternelle. Depuis 1992 jusqu'à la mi-2016, l'Agence de la langue de l'Indonésie a documenté 646 langues régionales dans toute l'Indonésie, avec un total de 2348 zones d'observation. Le nombre de langues qui a été vérifié et cartographié atteint 617 langues locales. Selon Summer Institute of Linguistics, ou SIL 2006, le nombre de langues en Indonésie atteint 742 et 737 d'entre eux sont encore parlées activement. Et moins de 10% ont pu être seulement 5% des langues indonésiennes ont été étudiées par les linguistiques parce qu'il n'y a plus de locuteurs. Des centaines de langues de région, environ 145 langues, dont les locuteurs de moins d'un million de personnes, continuent de diminuer. On estime que 30 des 58 langues régionales de la Papouasie occidentale ont disparu depuis 20 ans. En outre, 10 jusqu'à 15 langues régionales en Papouasie occidentale sont également confirmées mortes parce qu'elles ne sont plus utilisées par leurs locuteurs, telles que la langue de Miah, Mpur, Dumser et Karondori. Selon l'UNESCO, la langue est le centre de la vie sociale, économique et culturelle. Le langage détermine également les luttes sociales pour perfectionner le développement économique à l'ère mondiale, priorisant les connaissances et les idées locales. D'autre part, la commémoration de la Journée internationale de la langue maternelle dans certaines régions est un lieu de rencontre pour les amoureux de langue locale venant de divers partis, professions et divers âges. Pas seulement les affaires des artistes, des écrivains ou l'humanisme local. Il est naturel que tous les éléments de cette nation doivent commencer à préserver la langue maternelle. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 22 février 1921, le coup d'état Reza Khan contre Ahmad Shah Qajar. Reza Khan, un soldat qui a des relations étroites avec le Royaume-Uni, a mené le coup d'état contre le gouvernement Ahmad Shah Qajar. Il est le roi Iran à l'époque là a nommé Rezakan en tant que commandant en chef du royaume militaire de l'Iran. Après cela, grâce à l'appui du Royaume-Uni, Rezakan est finalement devenu le roi remplacé Ahmad Shah Qajar. Mais il y a la tendance que Rezakan soutient l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale et ensuite le Royaume-Uni lui retiré du pouvoir et expulsé de l'Iran. Le 22 février 1978, Istiqlal est inauguré comme l'une des plus grandes mosquées de l'Asie du Sud-Est. Selon les archives du journal Compass, plus de 200 000 personnes peuvent s'y rassembler. Commencé en 1964, à l'époque du président Sukarno, sur les plans de l'architecte indonésien Frederick Silaban, sa construction s'est achevée en 1984. Cette mosquée a été inaugurée par le président Sukarno le 22 février 1978. Le nom Istiqlal vient d'un mot arabe qui signifie indépendance. Ce nom est utilisé comme une forme de reconnaissance pour l'indépendance de la nation indonésienne. L'emplacement de la mosquée Istiqlal à côté de la cathédrale de Jakarta est également un symbole de tolérance. C'est une signification très importante pour la nation indonésienne qui a divers ethniques, religieux et culturels. Le 22 février 1997, Dolly, le premier cloné au monde, a été introduit. Dolly est une brebis célébrée pour être le premier mammifère cloné de l'histoire, introduit par le scientifique Écosse Kate Campbell, créé à l'Institut Roslin à Edinburgh en Écosse. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteur, bonsoir. Voici donc mon Indonésie ayant pour le titre le ministère de l'Environnement et des Forêts accroît la participation communautaire pour prévenir les incendies de forêts et de terres. Le ministère de l'Environnement et des Forêts a fait une approche à la communauté comme l'une des solutions dans la prévention des incendies de forêts et de terres. Cela a été transmis par le directeur de la lutte contre les incendies des terres et des forêts du ministère de l'Environnement et des Forêts, Raffles B. Panjaitan, tout en ouvrant la formation des animateurs pour Mangala Agni ou les forces de lutte contre les incendies de forêts et de terres dans la province de Kalimantan du Sud, lundi. Il a dit que l'approche intensive et la socialisation changeront les habitudes qui sont faites par les gens d'ouvrir ou de fricher la terre pour des plantations et l'agriculture. Dans cette formation, Mangala Agni a été donné une connaissance sur la stratégie de l'approche systématique au public qui peut accroître la participation communautaire à la prévention des incendies de forêt et de terre. Plus tôt, en 2017, une formation similaire a également été eu lieu par le ministère de l'Environnement et des Forêts à Riau, Sumatra du Sud et Kalimantan Central. Raffles Panjaitan a dit, cette formation a été réalisée dans une zone sous-zone qui est toujours à l'abri des incendies, puis sera suivie plus tard dans la province de Jambi et de Kalimantan. Il a dit que la technique de cette facilitation devrait être mise en œuvre par Mangala Agni dans les activités de prévention comme les patrouilles ou la socialisation au public. En tant que fer de lance du ministère dans le contrôle des incendies de forêt et de terre, l'approche de Mangala Agni envers la communauté est très importante. À tout moment, Mangala Agni sera ensemble avec la communauté sur le terrain pour protéger la forêt et la terre de la menace des incendies. Pendant ce temps, la lutte contre les incendies de forêt et de terre est toujours en course dans certaines régions. comme la province de Riau, Kalimantan Ouest et Kalimantan Central. Cela est dû à l'accès difficile et au manque de ressources en eau sur le terrain. Il espère que le nombre de ponchos peuvent continuer à diminuer tant à Riau et à l'ouest de Kalimantan. Donc, Mangala Agni peut se concentrer davantage sur les activités de prévention comme les patrouilles, le renforcement des capacités et la socialisation au public. Secrétaire, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Au moins 3 000 personnes de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, ou BNPB, et l'Agence nationale de gestion des catastrophes régionales, ou BPBD, en Indonésie, ont participé à la réunion de travail national à Nusa Dua, Bali. Le chef de BNPB, M. Willem Rampangile, a déclaré aux journalistes à Bali Nusa Dua Convention Center mercredi que la réunion de travail pour évaluer de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, BNPB, et BPBD en 2017. Selon lui, cette évaluation sera la base de rédiger la stratégie de travail en 2018.
Oleh karena itu, di dalam rapat ini, kita harus satu, menetapkan prioritas.
Par conséquent, dans cette réunion, nous devons, premièrement, déterminer la priorité. Deuxièmement, nous ne pouvons plus gérer les catastrophes de façon traditionnelle. Nous avons besoin d'innovation, de percée, d'utilisation de la technologie, de développement des capacités. Le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes a expliqué tout au long de 2017, il a réussi à réduire le risque de la gestion des catastrophes. On peut voir à partir du nombre de morts à cause des catastrophes naturelles en Indonésie. Selon lui, la condition est soutenue par la préparation de parties prenantes concernées. Donc, selon le gouvernement, la société joue également un rôle actif dans la réduction des risques de catastrophes naturelles en 2017. Cette activité est participée par des ministres du cabinet de travail du 21 au 23 février. Le Centre de recherche océanographique de l'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, commémore son 33e anniversaire. Avec une longue histoire, LIPI contribue au développement national, notamment dans le domaine des sciences et technologies marines. Le directeur du Centre océanographique de LIPI, Dr. Dirham Shah, mardi à Jakarta, après l'ouverture de la Semaine de la science océanographique 2018, a déclaré que sa partie fixait des objectifs de construire un centre de données national.
Kami berharap kami menjadi embrio dari yang namanya kita akan sebut dengan national.
Nous espérons que nous deviendrons l'embryo du nom que nous appellerons le Centre national des données océanographiques. Parce que jusqu'à présent, l'Indonésie n'a pas officiellement un centre de données marins. Nous allons commencer pour cela et notre objectif en 2019 ou 2020. Nous sortirons avec un bâtiment spécifique que nous construisons pour le Centre national de données. Selon Dirham Shah, en 2019, il cible également à avoir des données des récifs coralliens et des algues en Indonésie. Jusqu'à présent, il n'existe pas encore de données complètes sur l'état des récifs coralliens et des algues en Indonésie. Ces données sont très utiles en plus de la science, mais aussi pour la prise de décision. Ces données peuvent être utiles pour la prise de décision dans le domaine du tourisme, dans les efforts de transplantation des récifs coralliens. LIPI possède également des données très importantes sur l'océanographie, physique pour la sécurité maritime. Selon lui, jusqu'à présent, l'Indonésie n'a pas de telles données. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Todung Mulya Lubis, l'ambassadeur de la République d'Indonésie en Norvège et en Islande, voulait renforcer la coopération dans le domaine des droits de l'homme avec la Norvège. Il a été dit mardi au Palais d'État Jakarta, après être inauguré par le président Joko Widodo en tant qu'ambassadeur de la République d'Indonésie en Norvège et Islande. Selon Todung Mulya Lubis, les relations entre les deux pays ont été constructives, mais de nombreuses mesures doivent être prises pour attirer des investissements de la Norvège vers l'Indonésie, y compris de nombreux accords pour établir les relations culturelles et éducatives avec ce pays. Il a dit que le citoyen indonésien en Norvège était environ 6 000 personnes et à Oslo, il y en a environ 1 millier. Il travaille dans le domaine de l'énergie, la pêche et dans le domaine de la marine. L'inspecteur général de la police, Isa Fadri, veut poursuivre ses efforts pour aider à résoudre le conflit dans l'état de Rakhine, lorsqu'il sert comme ambassadeur de Myanmar. Isa Fadri, qui a précédemment servi le personnel expert des affaires sociopolitiques de commandant en chef de la police indonésienne, a été inauguré mardi par le président Joko Widodo comme ambassadeur de la République d'Indonésie au Myanmar. Il a été dit Isa Fadri au Palais d'État Jakarta mardi. Selon lui, comme un pays ami, l'Indonésie veut bien soutenir la solution du problème. Le 28 janvier 2018, le président a accordé une aide indonésienne au camp de réfugiés des Rohingyas à Cox's Bazar au Bangladesh. Plus de 650 000 Rohingyas ont fui de leur maison dans l'état de Rakhine pour évacuer au pays voisin, le Bangladesh, après que l'armée de Myanmar a lancé un contre-attaque comme réponse à une attaque des militants des Rohingyas sur les postes de garde le 25 août l'année dernière. Les Nations Unies ont égalisé cet acte avec le nettoyage ethnique. Plus de 300 hommes d'affaires du tourisme de différents pays d'ASEAN et l'Indie, ainsi que plusieurs villes en Indonésie, ont voyagé à plusieurs destinations touristiques à Banyuwangi, Java Est, pendant trois jours, du 20 au 22 février. L'événement avec le thème Ocean Travel Mart gère divers paquets touristiques qui visent à attirer plus de touristes nationaux et étrangers. Le président de la Bourse touristique de Java Est, M. Nasrun Afandi, a déclaré à Banyuwangi mercredi que Ocean Travel Mart a reçu une bonne réponse des entrepreneurs du tourisme, des vendeurs et des acheteurs qui sont sélectionnés leur crédibilité. Certains facteurs qui enflent l'enthousiasme sont entre autres le secteur du tourisme à Banyuwangi qui développe en quelques années. Le régent de Banyuwangi, M. Abdullah Aswar Anas, a déclaré mercredi à Banyuwangi que cet événement visait à trouver le nouveau marché tel que l'ASEAN et l'Indie. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel Pesona Indonesia. Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant une des sites touristiques à Kalimantan Nord, la plage Amal. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Bien que la province Kalimantan Nord soit connue comme l'une des plus grandes ressources pétrolières d'Indonésie, elle possède également une excursion naturelle qui semble de ne jamais être explorée. L'une des plages dignes de la province Kalimantan Nord, en particulier à Tarakan, est la plage Amal Tarakan. Cette plage se trouve dans le district Tarakan Est, en province Kalimantan Nord. La plage Amal est à seulement 11 km du centre-ville Tarakan et ne prend que 20 minutes. Tarakan, selon le folklore, vient de la langue Tidung. Tarak signifiant rencontrer et ngakan qui signifie manger. Littéralement, peut-être interprété comme un endroit pour les pêcheurs pour se reposer, manger, rencontrer et échanger les prises avec d'autres pêcheurs. Tarakan est aussi un lieu de rencontre de l'embouchure des fleuves Kayan, Sesayap et Malinau. La langue Tidung est une langue utilisée par l'ethnie Tidung vivant à Kalimantan Nord. La plage Amal Tarakan est également appelée la plage Amal Baru Tarakan. Cette plage ne comprend pas les plages de sable blanc comme les plages dans certaines zones touristiques à l'île Bali et aux autres plages en Indonésie. Malgré cela, cette plage mérite d'être une cible dans votre liste de visites touristiques. Surtout quand le temps est ensoleillé, vous verrez plus clairement la beauté naturelle et les zones côtières de cette région. La plage Amal est également visitée par de nombreux touristes locaux et de l'étranger. Pour les habitants, la plage Amal devient l'endroit le plus agréable pour un week-end ou des vacances. Pour que voici un lieu de rassemblement familial, jouer en ballon avec des amis pour profiter des paysages. Sur cette plage, vous pouvez profiter du plein ciel bleu qui s'étend clairement avec de beaux nuages. Le plus beau moment est de profiter du paysage avant le lever du soleil le matin. Le sable sur la plage est marron et a une vague qui n'est pas trop grande. Par conséquent, ici vous pouvez nager tout en profitant de la beauté naturelle qui est sur la plage Amal Tarakan située au village Juatalau Tarakan. Il y a plusieurs compagnies aériennes qui ont un itinéraire vers Juatalau Tarakan. De l'aéroport, vous pouvez utiliser le taxi ou le transport public pour la plage Amal Tarakan. Bien que pour atteindre la plage Tarakan, vous devez passer par les eaux et les bas, mais il disparaîtra une fois que vous arrivez à la plage Amal Tarakan. Si vous allez seul sur une moto ou une voiture, vous ne craignez pas non plus de vous perdre, car vous pouvez demander aux gens autour ou avec les conseils de votre téléphone intelligent. Après avoir fatigué de faire des activités à la plage Amal, vous pouvez essayer une cuisine locale typique vendue dans les étals autour de la plage Amal. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain!
La voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
La voix de l'Indonésie à Jakarta dans le programme Ma langue, comme média de préserver la diversité des langues locales en Indonésie. Chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans le programme Ma langue. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter la province Maluku afin de connaître plus loin la langue Yalahatan. Au sud de l'île Seram, en province Maluku, il y a un village appelé Yalahatan. L'origine de la communauté Yalahatan provient du royaume Amual. Le royaume Amual est assez grand car il comprend de 99 pays. Mais le triomphe du royaume Amual doit être bloqué par l'arrivée du colonial hollandais. Le royaume Amual a été divisé en plusieurs régions à Maluku et les zones environnantes. L'un des groupes rassemblés au pays Tamilo, au sous-district Amahai, au Maluku central, s'appelle Yalahatan, ce qui signifie clôture de protection solide. La langue Yalahatan est parlée par la communauté au village Yalahatan, sous-district Amahai, région Maluku central, en province Maluku. Selon les habitants, la zone de discours de la langue Yalahatan est adjacente à la zone de discours de la langue Haya, à l'est, et à la zone de discours de la langue Tamilo, à l'ouest du village Yalahatan. Basé sur les résultats du calcul de dialectométrie, l'isola de la langue Yalahatan est un langage parce que le pourcentage de la différence est d'environ 81% à 100% par rapport à d'autres langues à Maluku, comme les langues Samasuru, Lon et Piru. Chers amis, c'est quelques exemples de mots dans la langue Yalahatan. Yaou, en langue française, je. Yale, en langue française, tu. Ama, en langue française, père. Ina, en langue française, mère. Eui, en langue française, aller à. Sekola, en langue française, école. Pasar, en langue française, marché. C'est l'exemple de conversation dans la langue Yalahatan. Yau eu i sekola. Yau eu i sekola. En langue française, je vais à l'école. Ina eu i pasar apetu. Ina eu i pasar apetu. En langue française, la mère est allée au marché hier. Ama imolama i eu. Ama imolama i eu. En langue française, le père est parti. Si vous avez des critiques et des suggestions, s'il vous plaît, écrivez-nous à voi@voinews.id, voi@voinews.id ou à notre page de médias sociaux Facebook The Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia. C'était le programme Langue comme média de préserver la diversité des langues locales en indonésien.
La Voix de l'Indonésie depuis Jakarta dans la rubrique Bahasaku comme le média pour préserver la diversité des langues régionales en Indonésie.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir, serviteurs du service international de Radio République d'Indonésie, la Voix d'Indonésie, où que vous soyez. Bienvenue au programme régulier Magazine Musical, un programme qui vous présente la musique indonésienne, soit traditionnelle ou moderne. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous présenter des chansons nostalgiques chantées par Vina Panduwinata. Pour ouvrir notre rencontre aujourd'hui, nous écoutons la chanson de Vina Panduwinata intitulée Joyeux Septembre. Bonne écoute.
Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar wujudlah kasih juga. Kasih kau beri udara untuk nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwa. Musik yang seru, kau hadir di sini di batas merinduanku. Kasih, kau singkap tirai kabut di hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama.
Set the bad
Secrétaire, c'est la chanson de Vina Panduwinata intitulée Joyeux Septembre, composée par James F. Sunda. Cette chanson, qui est dans son premier album intitulé Cham, lancé en 1982, est une chanson principale dans cet album. La chanson intitulée Joyeux Septembre a bien été acceptée au marché de l'industrie musicale et a popularisé Vina Panduwinata. Pour le compositeur de la chanson, Joyeux Septembre, James F. Sunda, cette chanson a sa propre histoire. Selon lui, en septembre, le monde entier a ressenti le changement. Le pays des quatre saisons est entré en automne, le pays du sud est entré au printemps, tandis que le pays tropical est entré dans la saison des pluies. Ainsi, les changements de temps deviennent frais. Bon, serviteur, voici la chanson suivante de Vina Panduwinata intitulée « Il y a toi dans mon cœur ». Bonne écoute. Serviteur, vous venez d'écouter la chanson intitulée « Il y a toi dans mon cœur » de Vina. Cette chanson est d'autres hits de Vina et la chanson principale dans son deuxième album intitulé « Citra Ceria » lancé en 1984. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les dernières chansons de Vina intitulées « Lettre d'amour ». Bonne écoute et à bientôt.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Vous écoutez toujours La Voix de l'Indonésie à Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine la mission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, La Voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, La Voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, La Voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.